RCF.
Le gospel et la France, c'est une véritable histoire d'amour. Sébastien Fatt, vous l'avez expliqué. Est-ce que le gospel et la francophonie, de manière plus large, est une réalité à souligner ou c'est assez anecdotique ?
Alors, lorsqu'on se rend sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur YouTube, et qu'on fait quelques clics, on va s'apercevoir très vite qu'il y a une créativité absolument phénoménale en matière de gospel dans la grande francophonie transatlantique. Alors, qu'entendre par là ? On va entendre par là principalement l'Afrique de l'Ouest, mais aussi les Caraïbes, la Guyane et le Québec, le Canada francophone. Et donc là, on a une sorte de quadrilatère. Hein. On a d'un côté l'Europe francophone, évidemment, mais on a aussi l'Afrique de l'Ouest, les Caraïbes, la Guyane et le Canada francophone. Alors, pourquoi ce quadrilatère ? Comment l'expliquer ? Là encore, il faut remonter aux origines et remonter au commerce triangulaire, à la traite transatlantique des esclaves, puisque les esclaves, évidemment, ont été au départ prélevés en Afrique de l'Ouest, par les esclavagistes. Tout est parti de là. Ils ont ensuite été conduits dans les Caraïbes, en Guyane. Et alors, on me dira, mais que fait le Canada là-dedans ? Le Canada francophone, ça paraît un petit peu curieux. Quel est le lien avec l'esclavage ? Eh bien, le lien, il est tout simple. Il est lié au fait que le Canada, au 19e siècle, a émancipé ses esclaves plus de 30 ans avant les États-Unis. Et du coup, le Canada devenait pour beaucoup d'esclaves des États-Unis une sorte de terre promise à portée de la main, si je puis dire, où il était possible de vivre libre tout en étant afro-américain. Et dès lors, pendant plus de 3 décennies, s'est mis en place un réseau d'évasion à partir des plantations du sud des États-Unis, un réseau remontant vers le nord et aboutissant au Canada, puisque là, une fois arrivé au Canada, le shérif ne pouvait plus rien. On ne pouvait plus ramener l'esclave chez le maître planteur. C'était fini. C'était vraiment la liberté. Et ce réseau, on l'a appelé le Underground Railroad, le chemin de fer souterrain. Et il a au total permis à environ 100 000 esclaves en quelques années de fuir vers le Canada et notamment vers le Canada francophone. Donc on voit que l'esclavage est vraiment le trait d'union de cette francophonie. Et c'est à partir de ce terreau-là que dans ces différents espaces s'est développé graduellement un gospel francophone.
Oui, Jésus, je sens ton amour, mon cœur bat comme un tambour, j'attends de toi le secours. J'ai vécu ma vie à l'envers, loin de ton salut offert, montrer le point aux jours amers. Tout mon cœur est à genoux devant toi,
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Donc ça veut dire que le gospel francophone canadien, québécois, est ancien. C'est pas quelque chose de très récent, là.
Il est ancien, même si au départ, il est bien plus anglophone que francophone. La dimension authentiquement francophone, repérable en tant que telle, elle est plus récente. Mais effectivement, les racines remontent au 19e siècle. Et alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des répertoires gospel francophones nous viennent de ces espaces-là. Ne viennent pas de l'Hexagone, mais viennent d'une part d'Afrique de l'Ouest, d'autre part des Caraïbes, de la Guyane, et enfin du Canada francophone. Ce sont des pôles aujourd'hui extrêmement créatifs en matière de gospel francophone. Alors évidemment, le premier de très loin, c'est l'Afrique de l'Ouest. Parce que là, nous avons affaire, il y a une histoire particulière. Il y a également un marché très considérable de dizaines de millions de francophones. Il y a davantage de francophones en Afrique de l'Ouest qu'en France. Il y a également un réseau d'églises extraordinairement dynamique, hein, toutes sortes d'églises, hein, toutes les étiquettes, tout ce qu'on peut imaginer.
Et puis tout est parti de là quand même.
Et tout est parti de là, effectivement. Et donc à partir des années 70, après la décolonisation, il y a vraiment une explosion du gospel francophone, à la fois en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo RDC, au Congo Brazzaville, dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, se développent à toute allure les groupes gospel, mais aussi un véritable marché local du gospel, avec des phénomènes de starisation, des groupes qui deviennent extrêmement extrêmement célèbres, hein, extrêmement connus, très très appréciés, comme Gaël par exemple, un groupe congolais, Chekina, groupe de Côte d'Ivoire, mais il y en a beaucoup d'autres. Charles Mumbaya était également une très très grande figure de ce gospel francophone. C'est d'ailleurs l'un des premiers qui a vraiment construit ce gospel particulier, en particulier qui vient du Congo. Et donc, ce sont des lieux de créativité, de diffusion du gospel aujourd'hui. Mais il faut parler bien sûr aussi des Caraïbes, où là, c'est un petit peu plus récent, tout simplement pour des raisons liées au marché de la musique. Le marché est plus restreint. Et donc, il y a un décalage de quelques années dans les Caraïbes. Le gospel francophone, proprement dit, s'affirme un petit peu plus tard, mais on le repère quand même à la fin des années 70, avec notamment un groupe comme les Pacifistes, un groupe antillais comme les Pacifistes, et un développement beaucoup plus important dans les années 80, dans les années 90, avec aujourd'hui aussi de grandes stars du gospel. Je pense en particulier à Jessica Dorsey, qui est vraiment une figure emblématique du gospel caribéen aujourd'hui, qui se produit dans toute la francophonie. Et last but not least, il faut bien sûr citer aussi le Québec, hein, le Canada francophone, et souligner, je dirais, au-delà de la focale sur chacune de ces aires culturelles, souligner que tout cela circule. On est véritablement dans ce qu'on appelle un territoire circulatoire de la francophonie.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que ça circule?
C'est-à-dire que les groupes, les interprètes, les répertoires circulent. Le gospel d'Afrique de l'Ouest n'est pas simplement un gospel d'Afrique de l'Ouest. Il circule en métropole, ses interprètes se rendent en France métropolitaine, se rendent aussi dans les Caraïbes, se rendent volontiers au Canada.
Et donc ils s'influencent les uns les autres.
Ils s'influencent les uns les autres. Et la révolution digitale, la révolution numérique a beaucoup contribué aussi à cette circulation. Je voudrais juste vous donner un exemple tout à fait piquant. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur ces sujets à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. Et je présentais notamment un gospel ivoirien qui a été interprété par Pasteur Guy, qui a été composé il y a quelques années, je crois que c'est en 2007, par un pasteur ivoirien. Et ce gospel s'appelle « Je suis dans la joie ». Et on m'a demandé d'entonner un couplet de ce gospel, ce que j'ai fait. Et puis à la fin de l'intervention, un prêtre local vient me voir et me dit « Mais vous savez, monsieur, nous chantons ce gospel à la messe. Nous chantons ce gospel au moment de l'Eucharistie. Or, c'est un gospel qui a à peine 10 ans, qui a été créé par un pasteur protestant, en Côte d'Ivoire, donc a priori assez loin d'Angers, assez loin du Val-de-Loire. Et on s'aperçoit qu'en quelques années à peine, grâce à la révolution numérique et grâce à Internet, grâce à ces vidéos qu'on peut consulter si facilement sur Internet, eh bien le gospel s'est acclimaté en France, sans que ce pasteur d'ailleurs ne se rende lui-même physiquement en France. Et on voit à quel point la révolution digitale finalement permet cette créativité, cette fécondation réciproque hein, des gospels francophones et fait circuler, met en commun, mutualise des ressources. Et je crois que nous sommes simplement à l'aube aujourd'hui d'une véritable révolution liturgique et hymnologique portée par Internet. Ce qui demandait 40 ou 50 ans auparavant, hein, au 19e siècle, au 18e siècle, pour qu'un hymne, pour qu'un chant se popularise sur un autre continent, il fallait une génération. Il fallait une génération. Ça prenait du temps. Aujourd'hui, l'instantanéité des réseaux numériques, il faut simplement un clic, permet de faire connaître un chant quasi en temps réel, finalement, à une communauté qui se trouve physiquement à des milliers de kilomètres. C'est pour ça que vraiment, nous sommes face à un territoire, en réalité, qui est transnational. C'est un territoire circulatoire où tout ce qui se crée, tout ce qui s'interprète, circule quasiment en temps réel.
Il y a quelque chose d'universel dans le gospel ?
Il y a quelque chose d'universel, absolument.
Merci beaucoup, Sébastien Fatt.
Merci.
À demain pour conclure.
À Jésus, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré.